France Info.
Et à la une de ce 19 janvier, donc cette catastrophe ferroviaire en Espagne. Plus d'une vingtaine de morts au dernier bilan dans la collision entre deux TGV en Andalousie. À la une également une finale chaotique au Maroc. Confusion, bagarre en marge de la victoire du Sénégal face aux pays hôtes. Un sommet en urgence des Européens convoqué cette semaine à Bruxelles face aux menaces de Donald Trump sur le Groenland. Et puis le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, c'est aujourd'hui. Alors ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais la déprime est quand même là. Reportage dans un instant. C'est donc l'une des pires catastrophes sur les rails de ces dernières années en Espagne. Deux trains à grande vitesse sont entrés en collision hier soir. Bonjour Mélodie Pépin.
Bonjour.
On fait le point avec vous d'abord sur le bilan. Le dernier fait état de 21 morts au moins.
Oui, 21 morts, une trentaine de blessés graves et le bilan peut s'alourdir, préviennent les autorités. Le nombre de disparus est encore inconnu. Ces deux TGV transportaient au total 400 passagers. Alors la collision est survenue peu après 19h30 hier à Adamuz. On est dans le sud de l'Espagne, au sud de Cordoue. Ce n'est pas un choc frontal. En fait, le premier TGV déraille, trois wagons à l'arrière qui déraillent. C'est alors que le second TGV qui arrive en sens inverse, lancé à 200 km/h, vient les percuter. La violence du choc est telle que deux wagons chutent dans un ravin. Pour l'instant, on n'a aucune explication, mais cet accident est très étrange, selon les mots du ministre des Transports espagnol, qui rappelle que les deux TGV circulaient sur une ligne droite, que la voie sur laquelle ils circulaient a été rénovée au printemps dernier, que le train qui a déraillé était quasi neuf. Une commission indépendante est chargée d'enquêter.
Merci beaucoup Mélodie Pépin. Notez que la famille royale espagnole fait part de sa grande inquiétude à la suite de cet accident. Le président Macron lui adresse ses pensées aux victimes. Il évoque une tragédie. Il promet le soutien de la France à l'Espagne. À la une également ce matin, le sacre du Sénégal, champion d'Afrique de football. Les Sénégalais ont remporté leur deuxième CAN, deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Finale remportée face au Maroc, le pays hôte, 1-0 à Rabat. Rencontre gâchée par des débordements. Un match qui a bien failli, Adel Belloumri, ne jamais arriver à son terme.
97e minute au bout du temps additionnel, l'arbitre consulte l'assistance vidéo avant d'accorder un pénalty pour le Maroc, quelques minutes après avoir refusé un but pour le Sénégal. Énorme colère des supporters sénégalais, le match bascule dans l'irrationnel. Amine, supporter marocain, est halluciné.
Ils sont rentrés sur le terrain en fait, j'ai tabassé les ramasseurs de balles, j'ai trouvé ça inacceptable, après j'ai pas compris comment ça s'est passé.
Affrontement entre supporters et stadiers, la police qui matraque en retour, un véritable chaos.
On est dégoûté par rapport à l'image que ça donne, surtout que tout se passait bien jusqu'à présent. Le dernier jour, le dernier match. Et je trouve ça dommage de ternir l'image un peu de cette CAN.
C'est honteux pour le football. L'équipe qui veut sortir au moment du pénalty parce qu'ils sont pas d'accord. Ça, c'est honteux.
Les joueurs sénégalais quittent le terrain pour protester, puis reviennent. Le jeu reprend 16 minutes après la VAR. Panenka raté de Brahim Diaz. Et en prolongation, Pape Gueye offre le titre au Sénégal. Un titre au goût amer pour El Hadj, venu de Dakar.
Pour la première fois dans ma vie, je n'ai jamais vu ça. Pour les supporters, c'est un peu catastrophique. Parce que nous, les Sénégalais, comme on disait avant, Sénégal-Maroc, on est des frères, mais c'est décevant, vraiment.
Une fois les tensions apaisées, ces incidents n'ont pas empêché Marocains et Sénégalais de célébrer après le match.
Reportage à Rabat au Maroc, signé Adel Belloumri pour France Info. Réunion d'urgence à Bruxelles. Hier soir, les ambassadeurs des 27 États membres de l'UE se sont rencontrés pour répondre aux dernières menaces de Donald Trump. On le rappelle, le président américain compte désormais imposer des droits de douane à certains pays de l'Union, dont la France. Si le Groenland n'est pas cédé aux États-Unis, 10% de droits de douane à compter du 1er février, 25% même à compter du 1er juin, tant que le territoire autonome qui appartient à la couronne du Danemark n'aura pas été intégralement vendu. Et pour l'heure, Pierre Benazé, les Européens s'affichent très unis.
Les Européens considèrent que la souveraineté du Groenland est une question très grave et existentielle pour l'Union, tout aussi existentielle que la souveraineté de l'Ukraine, alors même que certains en Europe orientale craignent de voir s'amenuiser le soutien américain à Kiev. Le Danemark se voit donc garantir une solidarité unanime de ses partenaires européens. Ils estiment dans leur ensemble que la spirale des droits de douane est inacceptable et qu'il est hors de question de négocier la souveraineté d'un État. Les Européens veulent envoyer un message aux États-Unis. Ils sont prêts à dialoguer et dissiper les malentendus. Ils sont prêts aussi à travailler à la sécurité de l'Arctique. Ils demandent à la Commission européenne de préparer la réponse, c'est-à-dire la reprise des droits de douane européens. Ils portent sur 93 milliards d'euros d'importations des États-Unis. Ces droits de douane sont uniquement suspendus temporairement, en l'occurrence jusqu'au 6 février, et il suffirait de ne pas reconduire cette suspension. Plusieurs grands pays sont favorables à l'idée de choisir le rapport de force, en particulier France, Allemagne, Pologne et Espagne.
Pierre Benazé à Bruxelles pour France Info. On le rappelle donc, il y aura une réunion d'urgence des leaders de l'Union européenne cette semaine. C'est ce qu'annonce le président du Conseil européen, Antonio Costa. Le Conseil des ministres est exceptionnellement programmé aujourd'hui à l'Élysée. Le Premier ministre y annoncera comment il compte faire adopter le budget de l'État via ordonnance ou alors par 49-3 face au blocage à l'Assemblée nationale. Ces dernières heures, les socialistes, au départ opposés à l'usage du 49-3, ont laissé entendre qu'il pourrait ne pas voter la censure si certaines de leurs mesures sont retenues dans la copie finale. Parmi ces revendications du PS, la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises qui sera reconduite cette année et elle rapportera le double de ce qui était prévu dans la version initiale du gouvernement, alors même qu'il y aura moins d'entreprises qui devront mettre la main à la poche. C'est ce qu'a expliqué hier soir sur France Info la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Pour les très grandes entreprises, il y avait l'année dernière une surtaxe exceptionnelle qui concernait l'impôt sur les sociétés de 440 grandes entreprises. Cette surtaxe sera maintenue avec le même barème, à une différence près qui est importante et qu'il faut préciser. Les ETI, des entreprises de taille plus petite, seront sorties voilà, de cette surtaxe d'impôt sur les sociétés. À la fin, ça touchera non plus 440, mais 300 grandes entreprises et ça rapporte environ 8 milliards.
La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, la ministre de la Santé, elle arrive en tête du premier tour d'une législative partielle organisée dans le Loiret, un scrutin car son suppléant a refusé de la remplacer à l'Assemblée lors de son entrée au gouvernement. Stéphanie Rist reçoit donc près de 34% des voix lors de ce premier tour devant la candidate du Rassemblement National. Le second tour aura lieu dimanche prochain. Deux quartiers de Narbonne dans l'Aude ont été évacués par précaution face aux fortes pluies qui touche la région, un épisode qui pousse Météo France et Vigicru à enclencher la vigilance orange dans 5 départements, l'Aude donc, mais aussi l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et toute la Corse. On surveillera cette vigilance dans les heures qui viennent. La météo, voilà, qui participe sans doute à la morosité du début d'année avec la fin des vacances de Noël. Le coup de blues que l'on surnomme le Blue Monday, c'est aujourd'hui, concept qui n'est pas scientifiquement prouvé, c'est une date plutôt symbolique, mais ce coup de mou, eh bien, il est bien là pour nombre d'entre vous. Exemple à Amiens, Gabriel Oupravant.
Les décorations de Noël sont rangées, les sapins sont jetés, l'esprit de Noël envolé. La période après les fêtes est plus compliquée que d'autres moments dans l'année. C'est le ressenti de Françoise, 56 ans.
Janvier, février, c'est la plus triste. Il fait froid, la pluie, c'est sombre la journée. Avant, on prépare les périodes de fêtes et après, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est triste, on attend l'été.
Des coups de blues hivernaux qui affectent aussi les jeunes. Héloïse a 21 ans, elle se sent toujours moins bien pendant cette période.
En études, en plus, souvent l'hiver, c'est l'arrivée des partiels, donc forcément le froid, la nuit, les examens, c'est pas évident à gérer.
La psychologue Marilène Gauvin constate qu'elle reçoit plus de demandes de consultation après les fêtes, particulièrement en janvier.
L'éloignement, les conflits qui ressurgissent autour des repas de famille, ça vient réveiller vraiment des choses qui ont été mises, si vous voulez, sous le tapis.
Pour éviter les coups de mou, elle conseille de pratiquer une activité physique régulière.
Même s'il fait pas beau, il faut enfiler les bottes, le bonnet, le cache-nez et aller marcher au moins une fois dans la semaine.
Selon la psychologue, la marche permet de réduire le stress et de sécréter de la dopamine, aussi appelée hormone du bonheur.
Merci beaucoup Gabriel Oupravant, ici Picardie pour France Info. Christine Peña, c'est une météo de Blue Monday qui nous attend aujourd'hui, un lundi, sous les nuages.
Sous les nuages, effectivement.
Cloud Monday.
Les nuages, mais vraiment très nombreux. Nous avons ces pluies intenses et elles le restent dans le sud, notamment sur l'Aude, sur les Pyrénées-Orientales, c'est là qu'elles viendront se caler avec un orage possible, pourquoi pas près des côtes. L'est de la Corse également aura des averses soutenues avec de la neige à partir de 1700 mètres d'altitude sur les montagnes corses. Et le risque d'avalanche d'ailleurs est très important, de 4 sur 5. Nous avons un peu de neige sur les autres massifs, mais moins de quantité. Et puis toujours ce ciel très nuageux à l'ouest avec quelques pluies. À l'est, c'est couvert, c'est voilé. Quelques tentatives tentatives de soleil quand même, apparitions sur Paris, Lille, Reims notamment, ou pourquoi pas en Bourgogne. Et encore, attention, nous avons pas mal de brouillard qui pourrait se montrer persistant, notamment près de la frontière allemande, où les températures ne vont pas décoller. On a de petites gelées ce matin et il devrait faire entre 3 à Strasbourg, 4 à Nancy à peine, contre 10 à 11 degrés ailleurs, et toujours un peu plus dans le sud-est, de 14 à 15 degrés du côté de Nice notamment.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h10.